Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Vendredi, c'est cinéma, à la maison, mais plus pour longtemps, on y croit, ou plutôt on veut y croire. Au programme de votre émission Vivante Église de ce mois-ci, émission cinéma, les apparences, ou plutôt là aussi, apprendre à voir au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on voit des autres, proches et lointains, pour en connaître la chanson d'Alain René. Au-delà des jugements terribles que l'on peut porter sur les autres avec Timbuktu d'Abderrahman Sissako, au-delà de notre ignorance souvent grande de la culture des autres, avec Kundun de Martin Scorsese, Manivelle, en route. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi, émission cinéma. Au programme, donc, ces trois films, pas de film à l'affiche, hélas, et encore, et toujours. Louis-Marie Soler, vous n'avez pas d'annonce à faire de ce côté-là, hein ? Vous connaissez personne au ministère de la Culture ?
J'aimerais bien connaître quelqu'un au ministère de la Culture, justement, pour essayer de l'influencer, mais non, mais savez-vous quand même qu'il y a quelques cinémas qui sont ouverts en France ?
Cinéma de plein air ?
Non. À La Réunion. À La Réunion, il y a des cinémas qui sont ouverts. On espère bien que...
Saint-Pierre-et-Miquelon aussi, il y en a ou pas ?
Non, 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 mais on espère bien que le gouvernement prendra exemple sur ce qui se passe là-bas pour faire en sorte que ça se passe aussi en métropole.
Oui, sans attendre qu'il fasse aussi chaud qu'à La Réunion.
Exactement.
Allez, premier film, on connaît la chanson, pas de bande-annonce, alors du coup, on va écouter un extrait, alors, ça met toujours dans l'ambiance, je vais quand même un tout petit peu situer l'action. Il y a beaucoup de personnages, donc vous allez m'aider, il s'agit d'Odile, de Claude, de Nicolas, de Marc et de Camille. En tout cas, il y a un personnage d'une certaine manière un peu principal, c'est donc une Camille qui est jouée par Agnès Jaoui, qui est étudiante en histoire et qui fait une thèse, on va découvrir dans un instant, une thèse qui lui tape sur le système. Parmi les autres personnages, allez Louis-Marie, venez à mon aide, Odile et Claude qui forment un couple routinier. Un ancien amant, Nicolas, qui débarque au milieu de ça. Comment vous complétez le tableau ?
Et puis on peut finir par le personnage finalement le moins sympathique. C'est Marc, l'agent immobilier qui est un escroc quand même, oui. Notoire, doublé d'un mufle.
Absolument.
Donc tous ces personnages, comment est-ce qu'on peut dire en fait ? Ils se croisent ils chantent.
Alors ils se croisent, mais la particularité du film, c'est que Alain René et ses deux scénaristes qui sont Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont pensé renouer avec quelque chose qui existait dans les années 30 et 40, c'est ces comédies populaires qu'il y avait à l'époque, dans lesquelles en particulier on a des exemples, Daniel Darieux, Albert Préjean, interrompaient l'action du film pour fredonner quelques ritournelles, des ritournelles de l'époque, mais eux les chantaient. Tandis que là, il reproduit ce modèle, mais au lieu de les faire chanter effectivement, ces personnages font du playback avec les chansons originales. Et ça ponctue l'action, ça ponctue les situations, ce sont des apartés qui donnent une espèce de bouffée d'air frais ou d'air pur, ou à l'inverse, accentue le moment un peu déprimant.
On peut dire qu'on n'a pas de bande-annonce, ou presque, donc c'est pour ça qu'on pédale dans la semoule. En tout cas, d'une certaine manière, un peu une histoire, s'il y en a une, c'est donc cette Camille qui est étudiante en histoire et qui est déprimée, et puis derrière, des histoires d'amour qui vont pas toujours très bien, et différents personnages, on va voir ça après. Alors là, l'extrait, c'est donc Camille qui va trouver sa sœur, Odile, elle jouée par Sabine Azéma, ça ne va pas fort.
T'es pas contente? Ils vont publier ta thèse, c'est quand même quelque chose.
Tout le monde s'en fout, Odile, des chevaliers paysans de l'an 1000. L'acte de Paladru, je t'en parle même pas. J'ai travaillé 7 ans sur un truc qui doit intéresser 15 personnes maximum.
Ah bah ça me déçoit. Je suis désolée, mais ça me déçoit. J'aurais beaucoup de peine si tu t'arrêtais, en tout cas. Et papa aussi. Excuse-moi. Mais franchement, si je peux te dire les choses, je trouve que tu t'écoutes beaucoup en ce moment. Faut pas te laisser aller comme ça, enfin. Tu sais, hein, ça dépend énormément de toi. Si tu décides de réagir, si tu me dis, bon, maintenant ça va, je suis en pleine santé, je suis heureux, je regarde toutes les choses de façon positive. Si tu te dis ça, mais tu verras que ça ira tout de suite beaucoup mieux. Tu comprends? Faut pas se laisser abattre, hein. Ça m'étonne de toi, d'ailleurs. T'es tellement actif, t'es tellement volontaire, toi, d'habitude. Puis, Tu sais, il faut te dire qu'il y a des gens qui ont mille fois plus de raisons d'être malheureux.
Et bah bravo, bravo. Ils sont très forts, très courageux, moi non. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste.
Mesdames.
Bonsoir Marc.
Bonsoir Odile. Tiens.
Ah, je lui parlais de son état dans ce moment-là. Je lui disais de se prendre en main un peu. Vous trouvez pas ?
Ça, ça comble le décor, on va dire, du film. On peut dire qu'elle a des raisons d'être déprimée, la pauvre Agnès Jaoui, parce que le thème de sa thèse, c'est les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Baladru. En même temps, tout étudiant en histoire...
devrait le savoir.
Non, devrait le savoir, et figurez-vous que c'est ce qu'on étudie. Je l'ai même étudié en Sorbonne. Bref, je suis pas là pour parler de moi. Louis-Marie, c'est un film, on peut dire, déroutant. Si on arrive à rester un petit peu sur l'histoire avant de dire ce qu'on peut commenter, allez parler puisqu'il y a beaucoup de personnages dans le fond. Parlons des personnages Odile et Claude. Sabine Azéma, Pierre Arditi.
Claude et Sabine Azéma forment un couple. Vous l'avez dit, routinier, et ça va mal entre eux. En fait, elle ne le sait pas que ça va pas entre eux. Elle n'a pas cette impression, Odile. C'est son mari qui la trompe et qui a l'intention de la quitter. Parce que, en fait, dans tous ces personnages et dans tout ce film, dans ce film, on rit beaucoup. Il y a des hasards, des coïncidences qui mettent dans des situations et des quiproquos qui sont assez savoureux. Mais il y a quand même beaucoup de mélancolie et quand même quelques situations dramatiques. Parce que vous l'avez dit, Camille est dépressive. Et elle a des malaises qui révèlent une blessure profonde. Il y a Nicolas, incarné par Jean-Pierre Bacri, et hypochondriaque, ça lui a collé à la peau, ce pauvre Jean-Pierre Bacri. Marc, on l'a dit, c'est un escroc immobilier, un mufle. Claude et Jane Birkin, et Jane, qui est incarnée par Jane Birkin, non seulement c'est la seule dont on utilise le prénom original, mais en plus c'est la seule qui soit chanteuse dans le groupe d'acteurs et qui chante une de ses chansons. Tous les deux veulent quitter leur conjoint respectif. Et puis il y a Odile qui trahit un jeune père de famille au chômage pour embaucher le frère de Nicolas. Quand même,
vous avez oublié Simon, le rêveur.
Ah oui, Simon, il n'est pas à l'aise dans l'immobilier.
Agent immobilier, poète.
Et il écrit des nouvelles pour la radio.
Et il cherche à charmer Camille.
Oui, exactement.
Bref.
Mais peut-être que c'est celui... Ça doit être un acte manqué parce que c'est celui finalement qui a des problèmes, mais les moins prégnants finalement.
Alors ça pourrait ressembler à un vaudeville, hein, comme ça, quand on en parle rapidement. Qu'est-ce que vous diriez pour continuer de présenter le film, Paul Dima ?
Oui, alors c'est un film qui est plusieurs genres à la fois. Il emprunte aux comédies américaines avec l'introduction de chansons, mais avec l'aspect tout à fait original et particulier de ce film. Et l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure en est un parfait exemple. C'est-à-dire que la musique est là pour apporter des compléments à ce qu'on sait des personnages, ou à leurs états d'âme, ou à leurs ambitions ou déceptions. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, et puis ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est eux, ils le miment par la bouche, mais on voit bien que ce n'est pas eux qui chantent. Donc, en même temps,
c'est comme une voix intérieure.
Ils intègrent ce qu'ils chantent, mais on sait que ce n'est pas eux, puisqu'on connaît la chanson. Et y a, entre le titre du film et le scénario, quand on dit oui, on connaît la chanson, ça veut dire, je ne suis pas naïf là, hein, je sais bien que derrière, ce n'est pas ce qu'on voit. Et c'est toute la trame du film, de montrer... les imbroglios, des sentiments, des couples qui se font, qui se défont, ils ne savent pas où ils en sont, etc. Et y a un côté rigolo, parce qu'il y a plein de gags où on ne peut que rire, mais en même temps, c'est pas si drôle que ça, et si on rit beaucoup, il y a en même temps une espèce de difficulté à vivre dans ce Paris qui est la ville des amoureux, quand même, Et bon, eh ben, c'est pas si simple que ça. Et le, on connaît la chanson, eh ben, des fois, c'est difficile.
On peut dire que c'est un film qui a eu un succès considérable, hein, Louis-Marie, en tout cas qui a été très très primé. Le nombre de Césars, c'est impressionnant. César du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur acteur second rôle, meilleure actrice, et j'en passe.
C'est le plus gros succès d'Alain René.
Plus gros succès d'Alain René.
De toute sa filmographie, et il a une belle filmographie, Alain René.
Alors justement, Alain René, dites-nous un mot d'Alain René.
Bah, Alain René, c'est...
Et pas tout de suite à propos de son trio d'acteurs fétiches.
Non, bah parce que ce trio d'acteurs fétiches est arrivé plutôt vers, on va dire, la deuxième partie, même le dernier tiers de sa carrière.
Donc André Ducellier, Pierre Arditi, Sabine Azéma.
Oui, et qui sont liés avec Jaoui et Bakri. Mais avant, il a commencé tôt. Il a été de la première promotion de l'IDEC. C'était dans les années 40. Donc,
l'actuelle Fémis.
C'est la Fémis, oui.
À l'époque, grande école de cinéma à Paris aussi.
À Paris.
L'école de cinéma.
Ouais, c'est l'école avec un E majuscule. Après, il a fait beaucoup de choses et il a été en partie, pas vraiment dans la nouvelle vague, mais il était dans la, comment dire, dans la vague de gauche, hein, d'une certaine façon. Et on se souvient du premier film qui a marqué dans sa filmographie, c'est Hiroshima, mon amour, qui est sorti en 1959, peu de temps après Les 400 coups, qui avait fichu une grosse claque, le film de Truffaut. Et c'est une autre œuvre charnière du cinéma français, parce que la façon de raconter l'histoire n'est pas du tout la même que celle des 400 coups, parce qu'il parle du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale à travers une histoire d'amour. Et on peut dire que c'est pas facile à suivre. Et puis, il met en scène une Delphine Seyrig absolument extraordinaire, qu'on verra dans un autre film qu'il a réalisé, beaucoup plus compliqué l'année dernière à Marianne Bad. Donc c'est vrai qu'au début, c'était très, très, que j'allais dire, très cérébral, oui. Pour finalement, puisqu'il travaillait comme scénariste avec des gens comme Marguerite Duras ou Rob Grier, hein, c'était pas évident comme littérature, c'était le nouveau roman. Et puis après, et plus tard, donc il est venu à quelque chose de plus léger avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, qui avaient écrit Smoking No Smoking, dont vous avez évoqué les comédiens, les acteurs principaux, à savoir Sabine Azéma, Pierre Arditi et André Dussolier, qui incarnait...
Sabine Azéma, sa muse.
Ouais, oui, et qui incarnait à eux deux 11 rôles différents dans un film qui compte deux volets, Smoking et No Smoking.
Alors pourquoi vous l'avez choisi, et puis si vous deviez rebondir sur ce que je disais en introduction, un film qui aide à voir un peu au-delà des apparences.
Oui, c'est non seulement qui aide à voir au-delà des apparences, mais qui interroge la comédie sociale et le paraître. C'est-à-dire que il dénonce les faux-semblants, il dénonce les postures qu'on se donne dans la vie sociale, et puis qui veulent cacher des choses qui sont toujours présentes et qui nous attristent ou au contraire nous donnent de l'énergie. Et on voit tout ça dans le film. C'est un peu une critique du fonctionnement superficiel de la société. Et alors, ben, ça nous amuse parce qu'on voit bien que, de fait, il piège un peu ses personnages par moments. Mais en même temps, ça nous amuse, mais en même temps, c'est un petit peu nostalgique parce qu'on se dit, bah oui, tout ça, ça fonctionne de façon quand même un peu maladive. Et à la fin du film, il va y avoir comme un grand nettoyage ou un grand renversement, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire rien du tout, on va écouter.
On va le dire maintenant, oui.
Voilà, et en l'occurrence, pour introduire le propos, c'est donc Sabine Azéma qui est dans toute une partie du film, donc jouée par... Enfin, Odile, pardon, jouée par Sabine Azéma, qui se cherche un appartement et qui se rend compte qu'elle s'est fait berner, et là, elle craque.
Je m'en rends compte, hein, j'ai peut-être pas l'air, mais... Je pourrais pas vivre sans toi, tu sais. Tu le sais, hein.
Non, je savais pas. Non.
Tu voulais me dire quelque chose?
Je suis venu te dire...
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas.
Vous allez rire, mais je trouve plus les toilettes. Mais je vais continuer à chercher, hein, c'est pas grave.
Monsieur Duverrier !
Oui ?
Je voudrais vous poser une question.
Une question, oui ?
Vous nous avez tout dit au sujet de cet appartement ?
Oui, bien sûr.
Vous n'avez omis aucun détail ? Un projet de construction, par exemple ?
Non.
Non !
Écoutez, cette histoire n'est fondée sur rien. Ce sont des rumeurs, des bruits. Des projets de ce genre, il y en a des dizaines à Paris. Je ne suis pas responsable de ce qui va peut-être se passer dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans...
Il fallait quand même nous en parler, c'est malhonnête !
Vous parlez de quoi ? Il n'y a rien à dire.
Elles sont où, ces fleurs ? Hein ? Où est-ce que je les ai foutues, ces fleurs ? Voilà ce que j'en fais de votre fleur hypocrite, mais... vous êtes malhonnête !
Mais non, mais c'est pas possible !
Il m'a endormi avec ses fleurs !
On aime Résiste quand c'est Sabine Azéma qui l'entonne, enfin, qui fait comme si elle l'entonnait.
Louis-Marie Soler, le mot de la fin sur ce film.
Ah ben, c'est... Paul a dit l'essentiel. On attend ces moments chantés, justement, parce que ça va arriver et on se demande ce que ça va être. Voilà, comme quand on se doute de ce que veut dire Pierre Arditi en époux, on a compris.
Je suis venu te dire,
hop, on n'a pas besoin d'entendre la suite.
Il avait quitté sa femme.
Ouais. Et puis après, hop, il bascule. T'en fais pas, mon petit Louis, deviens Pierre Perret, gentil. Enfin, c'est ça. Et puis René, vous parliez de Paris comme capitale des amoureux. Oui, bah, il est fort, Alain René. C'est... Quand il filme Paris, il a le même amour pour Paris que Woody Allen, là, pour Manhattan. C'est exactement pareil. Il filme Paris, il y a que lui qui filmait Paris comme ça. C'est extraordinaire. Pour tout ça, et puis pour ces acteurs qui... Vraiment, on a l'impression qu'ils se sont fait plaisir, un peu amusés. En fait, c'est ce qu'on a envie de croire, quand même. Mais...
On connaît la chanson d'Alain René. Louis-Marie, l'extrait qu'on va entendre, enfin, c'est pas un extrait, la pause musicale, c'est...
Eh bien, justement, je me rattrape par rapport au personnage de Simon, qui, le pauvre...
André Dusselier, agent immobilier, davantage fait pour la poésie qu'autre chose.
Exactement, qui est éperdument attiré par Camille et se retrouve, comment on dit, fort mari, hein, c'est comme
oui,
ça.
Oui, très bien, que cela est bien dit.
et à ce moment-là, il s'imagine, alors c'est ça qui est très fort, il s'imagine gardien, en garde républicain, pardon, à cheval, défilant sur les Champs-Élysées et chantant ce qu'on va entendre.
Il a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non, mais t'as vu ce qui passe. Le feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des filles à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais couper. Suivant les points de point. Rien ne chasse, cœur transi reste sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, émission cinéma. Nous aussi, on fait de la résistance parce qu'on est pour le cinéma, enfin qui ne l'est pas d'ailleurs aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui. Deuxième film, non pas à l'affiche, mais qu'on vous invite donc à voir depuis chez vous, à voir ou à revoir, Timbuktu. C'est un film d'Abderrahmane Sissako sorti en 2014. Cette fois, on a une bande-annonce. Elle n'est pas complètement en français, mais au moins ça va nous mettre dans le jus.
هل تعرف أن الكرة محرمة؟
كفر موسى. كيسكي تفعل؟
ريان.
أمني لا.
سنغزتك صوتا دوالي. لك دغوك صوتا.
بس أنا قاعدة تقولي. نعم قاعدة تقولي كجاك فريكة. أوكي راسا. نعم أبقى بولو تقيد فيها. أكا
صبر.
فلافلاني. أياتك. قلنا لنا أكا فقام كنا بيرو. أكا صبر.
نكون
تادو.
Voilà pour l'extrait de la bande-annonce. Alors l'histoire, au Mali, des islamistes envahissent la ville de Tombouctou, qui impose la charia. Ils bannissent la musique, le football, les cigarettes, procèdent à des mariages forcés, persécutent les femmes et improvisent des tribunaux qui rendent des sentences injustes et absurdes. Et malgré la férocité de cet islam, la population résiste avec courage au nom d'une autre conception de l'islam. Paul Dima, est-ce que vous pouvez nous introduire peut-être les personnages principaux ?
Oui, alors dans les personnages principaux, il y a ces jeunes écervelés et ignorants, de djihadistes, qui ont de la peine d'ailleurs à parler l'arabe du djihad, qui disent en anglais, mais quand ils ne se comprennent pas trop. Ils ne comprennent pas trop ce qu'ils font non plus. L'histoire d'un homme qui est berger, qui fait garder ses troupeaux, par un jeune berger de 12 ans qui s'appelle Hissan. Lui s'appelle Kidan. Il est marié, il a une petite fille, il a une fille de 11
ans. Un éleveur touareg. Éleveur touareg, donc il vit dans le désert.
Il vit dans le désert, dans sa tente, avec sa femme et sa fille, Toya. Et puis, y a un problème, c'est que une de ces bêtes gardées par le petit garçon Hissan se prend dans les filets d'un pêcheur qui s'appelle Amadou. Et Amadou tue la vache parce qu'il est en train de lui bousiller ses filets. Et le petit gardien de troupeau vient dire à Kidan, il a tué GPS, c'est le nom de la vache.
Oui.
il a tué GPS. Et puis, il veut aller régler ça, mais il a un revolver sur lui. Et le coup part et il tue le pêcheur. Et alors, évidemment, les djihadistes font leur enquête et s'emparent.
Faire une enquête, c'est bien un bien grand mot.
Oui. Ils l'emprisonnent et ils le condamnent à mort. Donc c'est une histoire singulière à l'intérieur d'une histoire plus grande à laquelle ils ne comprennent rien. C'est l'irruption brutale de ces jeunes djihadistes qui terrorisent, qui interdisent la musique, qui interdisent le tabac, alors qu'eux ne se privent pas ni de fumer ni d'autre chose. Et ces deux conceptions de la religion qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et les habitants sur place voient effarés débarquer cette bande de schnappants. Ils vivent sous leur diktat et leur pouvoir, et en disant « mais ça, c'est pas nous ».
Alors, Louis-Marie Solaire a beaucoup de choses à dire sur ce film. Entre autres, peut-être une, c'est que donc, c'est un film franco-mauritanien dont le tournage a été soutenu par les autorités.
Oui. Oui, ce qui explique aussi le ton et la façon dont et la possibilité qui a été donnée à Abderrahmane Sissako de tourner son film. Alors on lui a fait quelques reproches parce que on lui a dit qu'il s'était inspiré d'images qui avaient été tournées en 2012. Le film est sorti en 2014 et était présenté à Cannes.
Inspiré d'un reportage télé, c'est ça ?
Exactement, et qu'il se serait inspiré de certaines images qu'il avait tournées, puisqu'il avait, pendant un moment, été aussi parmi l'équipe qui faisait ce documentaire, puis il s'en est sorti. En fait, il a quitté cette équipe, et alors, bon, voilà, on y a fait ce genre de reproches, comme aussi on y a fait des reproches sur la façon dont il a traité certains de ses acteurs, qui étaient des acteurs qu'il avait pris à l'endroit
place,
où il tournait, sur place,
et qui n'avaient pas beaucoup payé.
Qu'il n'avait sous-payé, en particulier des enfants. Bon.
Ceci étant dit, à propos du fait que donc, le régime mauritanien a fourni des moyens financiers et humains, ça dit que l'intention du propos...
Était de montrer justement l'inanité de ces pratiques, cette façon de faire, d'imposer des lois que les gens ne comprennent pas, parce qu'en fait on veut les faire parler arabe, c'est ça ce qu'on comprend, alors que c'est pas leur langue, ils sont islamiques, hein, ils sont musulmans, mais ils sont pas arabes, donc ils parlent pas arabe, ils font leurs prières de la même façon, ils vont à la mosquée de la même façon, mais voilà, ils ont pas cette même acception, cette même façon de faire avec la religion. Et Abderrahmane Sissako dans son film suit une structure narrative tout à fait sobre, et puis il y a pas d'artifice. Mais justement, ce qui est fort dans le film, c'est l'intensité du discours, et en particulier du discours politique, qui montre qu'une partie de l'Afrique, cette partie de l'Afrique en particulier, pas la partie arabe, pas la partie maghrébine, est plongée dans le désarroi. Ils comprennent pas ce qui se passe. Et ils montrent par touche. Alors, on les voit dire... interdire le football, on en a parlé, il faut que les femmes portent des gants noirs, il faut qu'elles portent des chaussettes, pas de musique, etc. Et chaque fois, il va illustrer ces mots qui ont l'air, quand Paul disait « c'est des chenapans », oui, c'est peut-être des chenapans, mais c'est des chenapans redoutablement dangereux, parce qu'ils peuvent vous tuer, ces chenapans, parce qu'ils sont tous armés de Kalachnikov. Et à ce titre, la première scène du film est très... montre très bien tout ce qui va se passer. Ils sont dans un 4x4, un pick-up, ils sont quatre avec des Kalachnikovs, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils chassent une petite gazelle qui court au milieu du désert. C'est, voilà.
À la Kalachnikov,
voilà. Il y a des choses terriblement... Ça a du non-sens. Et imbécile. Et il y a une scène qui est formidable dans le film. Le football est interdit, et il y a une partie de foot sans ballon. Ils jouent au foot sans ballon. Sans ballon.
C'est pas les djihadistes pour le coup.
Ah ben non. Justement.
C'est un acte de résistance.
C'est un acte de résistance. Et quand les djihadistes, parce qu'ils sont tout le temps
à surveiller
matin et soir, ils viennent avec la moto, à ce moment-là, hop, ils s'arrêtent, ils font des étirements et ils reprennent leur partie sans ballon. Il y a même des tirs au but, il y a même des pénaltys, puis il y a même un âne qui perturbe la partie.
On peut dire que c'est un film qui a été aussi largement primé, donc c'est pareil au César en 2015, meilleur film, meilleur réalisateur, scénario original, photographie, musique, montage, son, et puis au Festival de Cannes, c'était en 2014, il a eu le prix du jury œcuménique. Paul Dimaresque, pourquoi c'est un beau et grand film à voir ?
Ça montre la résistance d'une population qui est croyante, d'une population locale par rapport à des envahisseurs dont ils ne comprennent rien de leur du fondement de leurs interdits, ils pratiquent une bienveillance entre eux, il y a une communauté villageoise, puis tout d'un coup tout ce qui faisait leur vie c'est interdit, ils obligent une marchande de poissons à prendre des gants pour vendre ses poissons, des gants en laine. Elle dit « Moi, je ne peux pas vendre du poisson avec mes gants en laine. »
Comment enfin, je le rince ?
Oui, tout est complètement à côté de la plaque. Et les jeunes qui se retrouvent chez eux pour faire de la musique, ils sont dénoncés. Et il y a une vieille un peu folle, un peu sorcière, qui, elle, continue à régner dans ce désordre, mais sans tenir compte de ce qui se passe autour. Elle avance fièrement dans sa douce folie, mais là, ils n'osent rien dire.
On peut dire aussi, on l'a pas dit, hein, que le film a été entre autres inspiré d'une histoire vraie.
Oui.
Oui.
Hein, mm-hmm. Un jeune couple non marié qui a été lapidé par des islamistes dans une région nord du Mali, appelée, on s'en fiche du nom de la région, et qui a été lapidé. Et d'ailleurs, dans le film...
Il y a une lapidation.
Il y a une lapidation.
Et il la montre avec... avec, j'allais dire, de la délicatesse. Est-ce qu'on peut parler de délicatesse ? Mais il ne s'apesantit pas là-dessus. Ça suffit. On a déjà l'estomac, le cœur tout retourné.
Il y a beaucoup de films, Louis-Marie, comme ça, qui montrent l'absurdité de l'islamisme.
Il y en a,
mais... C'est pas si fréquent, non ?
Celui-ci, est le plus remarquable. Le plus remarquable dans son ton et dans la façon de faire. Et puis, il n'y a pas d'angélisme, et c'est normal, vous me direz. Et il y a une grande force. C'est-à-dire que quand... Il n'en fait pas trop, il n'en met pas des tonnes, il ne surligne pas. Simplement, il montre ses paradoxes. Je parlais de la partie de football. On leur interdit de jouer au football, et à un moment, il y a ces policiers islamistes. Qu'est-ce qu'ils font ? Au début, on ne comprend pas trop leur conversation. Mais en fait, de quoi ils parlent ? De la France de Zidane et de l'Argentine de Messi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On interdit le football, mais on parle de ça comme si ils jouaient au foot dans la pièce d'à côté, enfin, dans la rue d'à côté. C'est hallucinant. On parlait de la cigarette aussi, on va se planquer derrière une dune pour fumer, et puis si quelqu'un fume, il se prend 40 coups de fouet quand même.
Et ne parlons pas des femmes.
Ah bah, ah oui. Dont
la femme de ce fameux Touareg.
Oui.
C'est donc hélas un film criant d'actualité, Timbuktu. C'est un film d'Abderrahman Sissako sorti en 2014. Comme on a un tout petit peu de large, Abderrahman Sissako en quelques mots, Louis-Marie.
Oh ben, Abderrahman Sissako, il est surtout...
C'est son cinquième film, mais ça veut dire que les autres ne sont pas assez inaperçus ou...
Non, il est surtout célèbre pour quelques films documentaires avant de faire des films de fiction. Si mes sources sont bonnes, ça doit être un de ses premiers, si ce n'est le premier film de fiction qu'il ait tourné. Et il a étudié le cinéma à Moscou, à l'Institut fédéral d'État du cinéma. Et il est remarqué par un court-métrage au milieu des années 90, en 1994. Et puis, il reçoit en 99 le prix du meilleur long-métrage pour son film intitulé La vie sur Terre, qu'il avait tourné un peu avant un autre film qui s'intitule Octobre. Il est parmi les réalisateurs africains... comme Ousmane Sembene, Djibril Diop Mambéty, Souleymane Cissé, Idrissa Ouédraogo, Alain Gomis, fait partie des rares cinéastes africains connus.
Timbuktu d'Abderrahman Sissako, à voir. On va faire une deuxième pause musicale, et puis après on va parler de notre dernier film, Kundun de Martin Scorsese.
Odonna neni jarabide kelala odonna odonna neni furunyonde kelala odonna ai bangi bolola ne kana ai bangi bolola jekizela ai bangi bolola ne kuna ai banki bolo doni nyala ne dosu kolobe divina kone dumbe ngaradi fe ne dumbe nganu fe ne dumbe ngaradi fe ne dumbe nganu
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma du mois, avec autour du plateau, faut-il le redire, donc Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, c'est centre jésuite dans le sud-ouest, s'il faut le redire, comme ça, ça fait de la pub pour les Coteaux Païs. Et puis, Coteaux Païs qui organise aussi des retraites cinéma, et Louis-Marie Soler qui est producteur de l'émission cinéma, la vraie émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h. Dernier film choisi, c'est donc le chef-d'œuvre spirituel du mois. C'est Kundun de Martin Scorsese et l'on parle, on voyage au Tibet. Alors c'est l'histoire tout simplement donc du 14e Dalai Lama, qui est donc le Dalai Lama actuel. Ce film retrace donc son enfance, sa jeunesse et les choses terribles qu'il a eu à affronter, entre autres donc la persécution du régime communiste de Mao Tse-tung et son exil en 1959. Alors plein de choses à dire, on va peut-être écouter un premier extrait, c'est pas la bande-annonce parce qu'on n'avait pas de bande-annonce en français tout simplement. Les moines sont à la recherche de la réincarnation du Dalai Lama. Un moine arrive dans un petit village du Tibet et rencontre ce petit garçon qui a été un jour le 14e Dalai Lama.
Je vais te le donner, si tu sais qui je suis.
Lama. À moi.
Non, Lama, il ne faut pas. Je ne l'ai jamais vu faire ça.
Alors j'aurais dû préciser, donc un moine rentre chez ses parents de manière apparemment inopinée et ce petit garçon donc voit le chapelet qu'il y a autour du cou de ce lama, il lui dit « c'est à moi ». Et c'est le début, donc c'est presque les débuts du film, et c'est comme ça que les moines sont mis sur la piste, puisqu'après il y a une scène très frappante, mais c'était difficile de la mettre à l'antenne, peut-être que l'un ou l'autre peut la raconter, Paul Dima rapidement.
Oui, on a mis sur la table des objets qui ont appartenu ou non au Dalai Lama précédent.
Donc au 13e.
Voilà.
Et on demande 13e. À cet enfant.
Et on laisse cet enfant faire. C'est un peu comme un jeu pour savoir si c'est vraiment lui qui a la réincarnation. Et de fait, cet enfant qui a 2 ans, à ce moment-là, qui est un peu capricieux d'ailleurs, un peu pas tortionnaire, mais enfin exigeant pour sa famille, à moi, c'est, il veut les choses. Et là, eh bien, il reconnaît, enfin, il s'attribue les objets qui ont appartenu au 13e Dalai Lama. Donc, c'est lui qui va devoir être enlevé à sa famille, même si après elle le rejoint, pour être éduqué et éveillé pour progressivement prendre sa place de 14e Dalai Lama.
Et en tout cas, quand il finit de reconnaître les objets, le moine s'incline et les personnes s'inclinent pour dire Kundun. Kundun étant le nom du premier Dalai Lama.
Du premier Dalai Lama, et on l'appelle Sa Sainteté.
Alors c'est un film donc très fort qui permet de plonger vraiment dans un autre monde, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que même si le Tibet, on va dire, est regardé un peu avec admiration depuis l'Europe et que le bouddhisme fascine et a fasciné, rentrer, on va dire, dans cette culture et dans l'univers du Dalai Lama, c'est une aventure. On peut dire, entre autres, Louis-Marie, que c'est un film aussi qui a été fait à partir d'entretiens avec le 14e Dalai Lama, en tout cas par la scénariste Melissa Mathison, faut-il dire.
Oui, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'aussi les critiques ont reproché à Martin Scorsese en disant que il y avait quelque chose d'un peu trop agiographique dans le film. Alors, chacun y verra ce qu'il a envie de voir. Ce n'est pas mon sentiment. Ce n'est pas un sentiment que d'autres partagent. Je ne suis pas le seul à le penser. Mais oui, effectivement, à partir de ces témoignages, il a bâti son histoire. Alors, il y a le côté un peu qu'on a reproché aussi linéaire, puisqu'on commence, ben, vous l'avez dit, l'enfant a 2 ans, et puis on va le voir grandir, on va le voir être formé et devenir un Dalai Lama, c'est difficile à dire. Et,
vous n'êtes pas de là-bas, c'est normal.
Et changer, parce que c'est là où on retrouve Scorsese et sa façon de faire, parce que, bon, et ce personnage, je vais dire Kundun, c'est plus facile, il est pas si loin que le personnage de Jack LaMotta dans Raging Bull, parce qu'au début c'est un enfant capricieux, vous l'avez dit, Paul, et puis un jeune naïf qui est dépassé complètement par les événements, et puis un homme à terre, seul, faible, qui va devoir fuir. Il y a donc dire que ce film est comme une parenthèse dans la filmographie de Martin Scorsese, et ça serait excessif. Non, il est bien dans l'esprit de Scorsese. Et alors, vous parliez de la façon dont a été écrit le scénario. Certes, il a de l'admiration pour le Dalai Lama, mais bon, peut-on lui reprocher de l'être? En tout cas, bon, le film a été fraîchement accueilli à sa sortie. Néanmoins, c'est un film qui mérite d'être réhabilité. Est-ce qu'on a envie de faire?
Fraîchement accueilli, bon, il a quand même eu... Ah oui, non, il n'a eu que des nominations aux Oscars en 1998.
Rien.
Je cherchais, voilà ce que je cherchais. Donc le film a été tourné avec l'aval donc, du Dalai Lama en personne. Et même, il y a eu comme une forme de reconnaissance du film. Il y a quand même eu des bonnes critiques. Hein. Moi, j'en ai trouvé dans Télérama. Hein.
Oui, mais globalement...
Mais pas que.
Alors, et pensez aussi... autre chose, le film était produit par Disney. Disney, on a tendance à penser que c'est seulement Mickey. Non, c'est une grosse entreprise, c'est l'industrie du cinéma. Hein. Mmh.
Et Disney a tremblé.
À cause des Chinois. Oui. Parce que l'image de Mao Tse-tung, quand on le voit, il y a un certain moment, c'est même là, cette scène est un peu limite comique, même si c'est redoutable pour ce qu'elle va entraîner. Mais là, quand même...
Donc, le film a été interdit de sortir en Chine.
Ouais, alors, pour ne pas énerver un peu plus les Chinois, qui venaient d'accepter quand même que Disney exploite 3 dessins animés en Chine. Donc, vous voyez, donc, on va gagner des sous. Donc, c'est un enjeu commercial. Ce biopic, pour pas que ce soit un incident diplomatique, donc il a été préféré... Enfin, en tout cas, jugé préférable par Disney, ne peut pas insister et décourter la carrière du film. Ça signifie qu'il n'a pas été distribué comme il aurait dû l'être.
Ah oui, donc il est sorti, mais il n'a pas été distribué. Oui, c'est ça.
Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu espérer.
Et c'est Martin Scorsese, donc lui, qui a été interdit d'aller en Chine.
C'est fini, hein, il ne peut plus aller. Non, pas en Chine, au Tibet.
Au Tibet, pardon. On va écouter un autre extrait. Donc, on avance beaucoup dans le temps, mais je vous laisserai éventuellement faire du rétro-pédalage et je vous donnerai la parole, Louis-Marie Solaire. Donc, ce Dalai Lama qui est au moment donc, de l'arrivée des communistes et de l'invasion du Tibet par la Chine, choisit au début la voie de la conciliation, pas seulement par intelligence, on va dire, politique, mais par souci de paix et de non-violence. Et donc, il va jusqu'à Pékin, on imagine que c'est Pékin, hein, pour rencontrer Mao Tse-tung. Et il y a entre autres un dialogue qui fait froid dans le dos.
Votre séjour a-t-il été bon?
Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes et j'ai beaucoup aimé...
Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Entre autres, comment solliciter l'opinion du peuple pour prendre des décisions. Dites à vos jeunes Tibétains que quand je prends contact avec vous, c'est par un Tibétain que je veux passer, pas par un Chinois.
Très bien. Certaines de vos idées me conviennent. Voilà des années que j'œuvre pour réformer nos monastères et pour réorganiser...
Excellente attitude. J'en suis très heureux. Sachez que je vous comprends. Mais je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion. Et votre peuple est empoisonné et inférieur. Inférieur. Je vous raccompagne à votre auto.
Voilà, et quand on sait ce que ça veut dire, hein, vous pouvez peut-être le reciter.
Oui,
des,
alors c'est...
Des massacres, en veux-tu, en voilà.
Oui, oui, oui. Des,
un
des
peuple annihilé.
Des massacres, des viols de population, des, ils obligent les moines et les moniales à forniquer en public.
Les enfants à tuer leurs parents.
Les enfants à tuer leurs parents, enfin c'est terrible. Et cette scène montre bien derrière un ton très civil et policé, l'extrême violence. Enfin, il y a un contraste terrible. Dans un premier temps, il s'est montré accueillant, etc. Et puis à la fin, c'est, voilà, le couperet tombe, vous êtes un peuple soumis. Quoi.
On peut dire, Paul Dima, Louis-Marie l'a un petit peu dit, mais ce n'est pas un film forcément pour découvrir le bouddhisme. C'est un film pour découvrir en fait un homme, l'histoire d'un homme qui est, donc pour les bouddhistes, un peu plus qu'un homme. Voilà, donc c'est le
oui,
portrait
alors,
d'un grand spirituel et en même temps d'un homme tout simplement.
C'est un homme tout simplement, il est extrêmement démuni, hein, tout le monde le laisse tomber, il est tout seul.
Parce qu'il faut dire qu'à l'époque,
son peuple,
à l'époque
hein.
le Tibet,
personne ne
Tibet.
Voulait le défendre. L'Occident n'a rien fait. Il a essayé de solliciter les États-Unis et les pays et l'ONU et les pays européens. Personne n'a voulu bouger face à Mao Zedong. Et donc, il se retrouve extrêmement dépouillé, lui. Et alors, c'est la confrontation entre l'impérialisme chinois et la force de son armée qui fonce et qui envahit tout, et la résistance pacifique du Dalai Lama qui ne veut pas rentrer dans la guerre, ni prendre les armes, ni lancer une armée pour faire face à l'envahisseur. Et on voit bien que ça va très très mal se terminer, et pour son peuple, et pour lui-même. Donc il est acculé à partir en exil en Inde en 1959, et il est toujours interdit de présence au Tibet. Donc c'est en même temps la force du faible d'avoir résisté, mais en même temps la faiblesse du faible, du Pacifique, devant une volonté de détruire par le sang et par le feu, asservir complètement une population et dire « on est ici chez nous ».
Au nom du progrès, on va écouter un dernier extrait. C'est justement le Dalai Lama qui fuit pour l'Inde.
Un long voyage nous attend, Pompo. Nous ignorons comment il finira et nous savons qu'il sera triste. Mais je ne peux concevoir ce voyage sans toi.
Sans douter, les Chinois ont déplacé leur campement. L'itinéraire est sûr. C'est maintenant qu'il faut se mettre en route.
Oui.
Une retraite est aménagée en Inde. On vous y attend.
Merci. Je vois un heureux voyage. Je vois un heureux retour. Maintenant, je suis prêt.
Alors, Paul, si je vous redonne la parole, pourquoi c'est un beau film et un film à voir, selon vous ?
Parce que c'est un film qui nous déroute. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
C'est pas qu'une biographie ou un biopic qui insiste sur les événements marquants, etc. Au contraire, c'est un cinéma qui s'attache aussi au moment où on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Là, on ne comprend rien du tout. Il y a tous les rituels bouddhiques, il y a tout, tous ces habits, ce faste un peu des temples. Et puis des cérémonies millénaires auxquelles on ne comprend rien. Sinon, qu'il y a une recherche intérieure, qu'il y a une montée vers la bienveillance et la non-violence.
Vers un éveil.
Et puis on se dit, mais ils sont fous parce que ça va leur tomber dessus, quoi. Et de fait, ça leur tombe dessus. Donc, il y a cette tension entre... des très longues séquences dans le film, on se dit, mais on perd notre temps, enfin, qu'ils finissent leur cérémonie, ça n'apporte rien. Et bien, si justement, il nous fait cheminer à travers ça. Et puis, en même temps, il y a l'histoire qu'on voit avancer en leur défaveur. Et on sait la fin, nous. On sait que ça va mal se terminer pour eux. Donc, vous voyez, il y a une espèce de tension qui nous oblige à dire, ben, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils font tout ça?
Kundun, on peut dire, ça signifie littéralement aussi la présence. Oui. Louis-Marie Soler, le mot de la fin, un beau film, un grand film, pourquoi ?
Pardon. C'est un grand film. Juste ajouter quelques mots, Paul a pratiquement tout dit, mais Scorsese, en fait, son film montre comment un homme, il est à l'âge de 2 ans quand on le prend, et on va fabriquer, à partir de cet enfant, va fabriquer une divinité, en fait, qui va avoir non seulement un pouvoir divin, mais aussi un pouvoir politique.
Mais ça, c'est votre regard, c'est pas comme ça, c'est pas le regard des bouddhistes, justement, c'est le regard de l'occidental.
Il a un rôle politique, quand
oui,
même.
Oui, d'accord, mais il est censé être, pour les bouddhistes, la réincarnation de Bouddha.
Il est la réincarnation...
Donc pour eux, on ne le fabrique pas. C'est...
Oui, pour eux, on ne le fabrique pas.
C'est un regard pas. Occidental.
C'est... En tout cas, c'est tel que je l'ai vu dans le film de Scorsese, et ce qui montre, c'est-à-dire que c'est finalement quelqu'un, de banal, quoi, finalement, qui va devenir un personnage important. Certes, la réincarnation de Bouddha, mais au départ, si les moines n'étaient pas passés à ce moment-là dans cette famille-là, est-ce que cet enfant serait devenu le Dalai Lama ? Probablement pas.
Paul, c'est peut-être le mot de la fin. C'est vrai que ça paraît culotté de dire ça, parce qu'on imagine que s'il l'a fait avec l'accord du Dalai Lama, c'était pas d'abord pour poser peut-être ce genre de questions. Mais un regard occidental, en effet, peut se dire qu'il y a là quelque chose de surprenant.
Complètement surprenant, parce qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et alors, le bouddhisme et l'histoire du Dalai Lama, c'est en même temps... Alors nous, on est cartésiens, c'est religieux, c'est philosophique, c'est spirituel... Bon, c'est des mentalités où on aime bien mettre ça dans des cases étanches et précises. Là-bas, c'est un peu une autre approche, quoi. On dit ça sainteté, on se prosterne devant lui, on l'adore d'une certaine façon, même pour eux, c'est sans doute pas le mot qu'il faudrait employer. Et en même temps, comme le disait très bien Louis-Marie, il a été élevé, éduqué, et élevé en même temps au sens élévation, à ce statut-là, et qu'il essaie en toute conscience de tenir au mieux de ce qu'il est censé être.
Et qu'il découvre aussi.
Et qu'il découvre en même temps. Voilà, il prend conscience qu'il est la réincarnation. Au fur et à mesure, il en prend conscience. Et il perpétue la dynamique du Dalai Lama.
Eh bien, merci. 3 films pour rappel. Donc, on connaît la chanson d'Alain René, Timbuktu d'Abderrahmane Sissako et Kundun de Martin Scorsese. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.